Chapitre 39. Les préparatifs du mariage, fixés au mois d'août, étaient déjà commencés à Ashbourne. Ce devait être une fête digne de la fille unique d'un duc, d'une enfant que père et mère adoraient. Parents, vieux amis venaient de loin pour assister à la cérémonie. Il fallait préparer des chambres pour tout ce monde. La délicieuse laiterie de la duchesse devait être transformée en dortoir pour les jeunes gens. On devait utiliser même les loges et les pavillons des gardes. Pas un réduit, pas un coin de la maison ducale où l'on eût quelqu'un à caser tant bien que mal. Pourquoi ne pas tendre des hamacs dans la plantation la plus proche ? Demanda Rory en riant de tous ses préparatifs. Impossible d'être plus délicieusement installé pour dormir par une chaude nuit d'été. Le soir, sur la pelouse, bal sous la tente pour les paysans. Les jardins devaient être illuminés avec autant de luxe que le château de Vaux, à l'époque où le surintendant Fouquet gaspillait en prodigalité de tout genre les revenus d'une grande nation. Lady Mabel protestait contre tout ce tapage. « Chère maman, disait-elle, j'aurais préféré être mariée plus tranquillement. »« Ma fille, tout cela est l'œuvre de votre père. Il est si fier de vous. » Et puis, nous n'avons qu'une fille, et nous ne la marierons qu'une fois, j'espère. Pourquoi ne serions-nous pas entourés de tous nos amis ce jour-là ? Mabel haussait les épaules d'un air de répugnance pour tout ce bruit et tout ce monde. « Le mariage est un acte si solennel, disait-elle. Il est ridicule de l'accomplir au milieu d'une foule bruyante et indifférente. »« Indifférente ! » s'écria la bonne mère presque indignée. « Ce jour-là, ma chérie, il n'est pas une créature au monde qui puisse être indifférente à votre bonheur. Si notre cher Roderick eût été un personnage de plus haute distinction, votre père eût tenu à ce que vous fussiez mariée à l'abbaye de Westminster. C'est alors que vous auriez vu une foule de curieux. » « Pauvre Roderick, soupira Mabel. Quel dommage qu'il n'ait aucune espèce d'ambition. Il aurait pu faire son chemin s'il s'était choisi une carrière. « Il fera quelque chose plus tard, je suppose, » dit la duchesse pour l'excuser. « Vous en ferez ce que vous voudrez, mignonne. »« Vous croyez. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas trouvé très maniable. » La future mariée était de mauvaise humeur, et elle avait une tendance à considérer la vie avec découragement. Son plus cher espoir venait d'être amèrement déçu. La tragédie de l'âme sceptique, en dépit de la profondeur de sa conception, malgré son luxe typographique et son beau papier vélin, avait été un incontestable et terrible fiasco. La critique impitoyable avait réduit en poudre le pauvre petit papillon aristocratique, disséquant froidement l'entortillement de ses phrases sentencieuses, tournant en ridicule son érudition, perçant à jour ses adaptations édulcorées de la philosophie grecque, remontant à la source de ses moindres emprunts aux poètes allemands et français, enfin saccageant sans merci ce beau livre dont les dehors si riches semblaient annoncer un immortel chef-d'œuvre. Heureusement, le livre était anonyme. Mais Mabel saigna sous l'âpre morsure de la critique. Tomber ainsi du sommet du Parnasse, quelle chute, quel supplice, quelle humiliation envers quelques rares confidents! Elle sentait cruellement que dans son petit cercle, elle s'était couverte de ridicule. Sa mère en pleura, elle ne pardonnait pas aux revues leurs articles contre sa fille. Mais le duc, esprit inculte, sensible à la seule poésie du guano, riait tout haut de l'échec de sa pauvre fille. « C'est fâcheux, sans doute, disait-il, mais qu'importe un premier désappointement. Vous ferez mieux une autre fois, ma mignonne, j'en suis persuadé. Et puis après, si vous échouez, je n'y vois pas grand mal. Bien d'autres avant vous se croyaient poètes qui se sont aperçus de leur méprise. » « Ces ignobles journalistes ne comprennent pas sa poésie, disait la duchesse. Elle-même n'y comprenait goutte, mais après tout, ce n'était pas son métier à elle. » Tandis que c'est le rôle de la critique de comprendre tout même l'incompréhensible. J'ai peur d'avoir dépassé le niveau de leur intelligence, dit Lady Mabel piteusement. Mais le plus insupportable de tous était Rodrigue Vaudrey. Ne vous l'avais-je pas dit, ma chère Mabe, que votre âme sceptique n'était pas accessible aux intelligences ordinaires? Vous vous êtes noyé dans un océan d'obscurité. Vous saviez ce que vous vouliez dire, mais aucun être humain ne pouvait vous suivre. Rappelez-vous Voltaire et sa définition des discussions métaphysiques, de ces conversations où, sur deux interlocuteurs, il en est un qui ne comprend pas ce qu'on lui dit et un autre qui ne comprend pas ce qu'il dit lui-même. Il fallait, pour plaire à la multitude, choisir un sujet plus simple et parler l'anglais de tout le monde. Plaire à la multitude. Mabel ne s'en souciait pas. Elle avait déjà dit à son fiancé que pareil succès lui eût paru plus humiliant qu'une défaite. Plutôt n'être pas lu que d'être apprécié seulement de la tourbe des gens médiocres. Mais elle eût aimé à être comprise et louée par la critique, avoir un petit groupe de lecteurs choisis, un petit monde d'admirateurs, une élite, une aristocratie intellectuelle dont elle eût été la muse. « Vous vous trompez, Roderick, » dit Mabel avec une dignité glaciale. « J'ai des amis qui peuvent comprendre et admirer ma poésie, si peu compréhensible, si peu intéressante qu'elle soit pour vous. »« Chère Mabel, je n'ai jamais dit qu'elle ne fût pas intéressante, » reprit humblement Roderick. « Tout ce que vous faites doit m'intéresser, mais j'avoue franchement que je ne vois pas aussi clair dans vos vers qu'il le faudrait. » Pourquoi serais-je moins sincère avant qu'après le 1er août? Pourquoi le fiancé serait-il moins franc que le mari? Je dois être vrai, même au risque de vous offenser. Soyez-le, je vous en prie, dit Mabel avec une irritation contenue. Rien d'exquis comme la sincérité. Mes critiques sont assurément sincères. Ils m'ont dit la vérité, n'est-ce pas? Ils ne l'ont pas déguisée. Rory comprit que l'insuccès littéraire de sa fiancée était un sujet qu'il faudrait éviter avec soin dans l'avenir. « Ma pauvre Vixen, pensa-t-il, ce n'était peut-être pas le moindre de vos charmes de n'avoir jamais écrit un seul vers de votre vie. » Lord Mallow devait venir à Ashbourne 15 jours avant le mariage. Il avait été fort aimable pour le duc, et le duc l'avait invité. À cette époque, la chambre était en vacances. La saison était délicieuse pour la forêt, qui serait superbe de verdure et d'ombre. Quel temps exquis pour les déjeuners à la bohémienne et les promenades sentimentales. Lord Mallow n'avait vu la forêt qu'en hiver, l'occasion était donc magnifique. Il arriva et Lady Mabel l'accueillit avec un triste et doux sourire. « Quelle terrible unanimité à mon égard dans la critique, n'est-ce pas ?» lui dit-elle, quand elle se trouva seule avec Lord Mallow dans la serre. « Vous avez commis une singulière imprudence, Lady Mabel, une véritable étourderie. Que voulez-vous dire ? Vous avez donné au monde votre admirable ouvrage sans avoir fait l'éducation du public. Il fallait d'abord l'habituer à vous comprendre. » Supposez que Browning eût fait comme vous, qu'il eût commencé par le livre et l'anneau. Il aurait éprouvé une défaite aussi grave que celle que vous venez d'essuyer. Si vous aviez d'abord lancé quelques essais de moindre importance, voyez-vous d'ici le lecteur se familiarisant peu à peu avec votre style, trop original et d'une trop grande envergure pour plaire du premier coup. Un volume de ballades et d'idylles, quelques courtes histoires en vers bien simples, eût ouvert la voie à votre grand poème dramatique. Imaginez Goethe commençant sa carrière littéraire par le second Faust. Il s'en est bien gardé. Il avait d'abord conquis sa popularité par un roman à sensation. « Je ne voudrais pas écrire un roman à sensation, » soupira Lady Mabel. « Si je ne puis planer au-dessus des nuages, j'aime mieux renoncer à déployer mes ailes. Vous serez alors forcé d'accepter votre échec comme un témoignage caractéristique des tendances d'une époque essentiellement superficielle, d'un siècle philistin, un siècle qui admire Brown, Jones et Robinson. » Et Lord Mallow entama une série interminable de noms, sacrifiant les plus célèbres illustrations du temps à la vanité de Lady Mabel Ashbourne. Cette courte conversation dans la serre fut le premier baume réparateur appliqué sur la blessure saignante de la poétesse. Elle en fut profondément reconnaissante à Lord Mallow. À la bonne heure, c'était là une vraie sympathie. Et combien différente des avertissements maladroits de Roderick et de sa sotte affectation de naïveté. Mabel résolut de faire de son mieux pour rendre agréable à Lord Mallow le séjour d'Ashbourne. Elle lui tint souvent compagnie, lui donna tout le temps qu'elle pouvait enlever à Roderick, qui, du reste, n'était pas un amoureux bien exigeant. Leur mariage était si proche qu'un perpétuel tête-à-tête n'était vraiment pas indispensable. Ils en auraient tant qu'ils voudraient pendant leur voyage le long des fjords de Norvège. Lord Mallow ne se souciait pas de monter à cheval sous un ciel tropical, ni d'exposer son cheval aux attaques énervantes des mouches forestières. Il accompagnait la duchesse et sa fille dans l'élégant poney chaise de Lady Mabel, visitait avec elle les écoles et les chaumières, et expliquait à ces dames les grandes choses qu'il se proposait de réaliser dans son domaine irlandais quand il en aurait le loisir. « Il vous faudra attendre d'être marié, » disait la bonne duchesse. « Les femmes comprennent ces détails beaucoup mieux que les hommes. Mabel est au moins pour moitié dans les plans des cottages que vous admirez. Elle a pris les dessins de l'architecte et les a modifiés d'après ses propres idées. « C'est donc pourquoi ils sont si parfaits, » s'écria le jeune lord avec aplomb. Le séjour à Ashbourne fut une des époques les plus mémorables de la vie de Lord Mallow. Très impressionnable, il était depuis 3 mois devenu de plus en plus amoureux de Lady Mabel. Sa beauté délicate, son intelligence, son élégance, son rang, tout cela le charmait et le fascinait. Et par-dessus tout, cette sympathie qu'elle témoignait à l'Irlande. Ce n'était certes pas la première fois qu'il aima. La liste des idoles qu'il avait adorées commençait à ses dernières années d'école. Mais maintenant, en sondant son cœur, il reconnaissait que jamais il n'avait aimé comme cela. Il avait subi, il est vrai, une rude attaque de la part de Miss Tempest. Oui, il reconnaissait cette faiblesse d'autrefois. Il avait trouvé en elle la plus belle et la plus charmante femme du monde, et il avait quitté l'abbaye triste et désespéré. Mais il s'était promptement remis de cet accès de fièvre, et aujourd'hui, en admirant avec une sorte de respect la distinction, la correction de Lady Mabel, il s'étonnait d'avoir pu sérieusement s'offrir à une jeune fille d'un caractère aussi indiscipliné, aussi intraitable que Vixen. « Je serais bien malheureux maintenant si elle m'avait accepté, » pensait-il. Elle se souciait du peuple irlandais comme de cela. Il était amoureux, irrémédiablement amoureux, et celle qu'il aimait allait en épouser un autre avant 8 jours. Sa situation était atroce. Mais comment diable une Lady Mabel Ashbourne pouvait-elle se faire à l'idée d'être la femme d'un Roderick Vaudrey? Que voyait-elle en lui? Lord Mallow n'y comprenait rien. Certainement, M. Vaudrey n'était pas mal dans son genre. Il avait bonne tournure, était suffisamment bien élevé, bon cavalier, excellent chasseur. Il rendait au billard un nombre honorable de points à un joueur de force moyenne. Mais assurément, c'était là des titres assez minces à l'amour d'une 10e muse, d'une femme accomplie. Si au fond, Lord Mallow n'appréciait pas beaucoup la poésie de Lady Mabel, il n'en respectait pas moins l'élévation de son esprit, la noblesse de ses efforts. Une femme qui lit Euripide et qui sait ce qu'il y a de mieux dans la littérature moderne est assurément de celle dont un mari a le droit d'être fier. Dans cette disposition d'esprit, et d'autant moins suspect que personne ne lui attribuait l'ombre d'un espoir ou d'une chance, Lord Mallow ne quittait pas Lady Mabel pendant ses derniers jours avant le mariage. Roderick surveillait les changements qu'il faisait faire à Briarwood, monté sur un pied tout nouveau pour rendre l'habitation digne de la mariée. Lord Mallow était toujours à la main, pour ainsi dire, dans la serre, la bibliothèque, le jardin, le boudoir, toujours prêt à se rendre utile. Et il buvait avidement le doux poison. Son paradis chimérique devait s'effondrer au bout de quelques jours dans les ténèbres, la désolation, le désespoir. Mais le paradis était si délicieux que Lord Mallow ne pouvait s'en arracher, bien que sa conscience lui en interdît l'accès, comme l'archange à l'épée flamboyante, debout à l'entrée de l'Éden. Tant pis pour sa conscience. L'honneur avait beau élever sa voix, les sentiments les plus délicats de son âme avaient beau s'indigner de sa faiblesse, il fallait partir sans retard, et il restait.